RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Un nouveau mystère autour de la disparition d'un jeune étudiant, Stéphane Camogne, âgé de 24 ans, a disparu depuis 12 jours. Et cela, après avoir participé à Châlons-en-Champagne à la soirée de remise de diplôme de l'École nationale des arts et métiers.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime.
Depuis 14 ans, chaque mois de janvier, la famille et les proches de Stéphane Camogne se rendent à Châlons-en-Champagne pour rendre hommage au jeune et brillant ingénieur. Stéphane Camogne, 24 ans, a disparu en pleine nuit au sortir d'un gala étudiant organisé par son école. Son corps sera repêché 2 semaines plus tard dans un canal. Les investigations lancées autour du décès du jeune homme vont être tout aussi lentes qu'hésitantes. Des centaines de personnes étaient présentes à cette soirée, mais personne n'a rien vu. Pendant des semaines, la mort de Stéphane Camogne va être considérée comme accidentelle. Il va falloir toute la détermination de ses parents pour qu'un tout autre scénario se dessine. Celui d'une agression, d'une violence extrême perpétrée à la faveur d'une nuit sans témoin. Reste que la justice va continuer à avancer à petits pas, comme si ce dossier-là, au fond, n'était pas vraiment une priorité. Qui a croisé le jeune ingénieur au petit matin? Combien de personnes savent et cachent la vérité? Question posée aujourd'hui à nos invités.
L'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camogne. À l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé, promis à un bel avenir, disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Il n'est pas allé très loin, mais il va falloir bien du temps pour le retrouver. Ce lundi 8 décembre 2008, Samuel Camogne se demande pourquoi il n'a aucune nouvelle de son fils Stéphane. Ce dernier est injoignable sur son portable. Vérification faite, il ne s'est pas présenté au cabinet de consultant qu'il emploie depuis quelque temps à Paris. Rien qui ne cadre avec les habitudes de ce garçon studieux, sérieux, ponctuel. Samedi, Stéphane a pris sa voiture pour se rendre jusqu'à Châlons en Champagne, invité au gala annuel de remise de diplôme de son établissement. L'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM, le gala des finios, comme on l'appelle, une fête qui rassemble des centaines de personnes et que nul ne voudrait rater. Le père, Samuel Camogne, pense à un accident, mais les services de secours et le CHU de Châlons répondent par la négative. Stéphane a été vu pour la dernière fois vers 3h30, 4h du matin, alors que la fête battait son plein, mais les témoignages sont pour le moins nébuleux. Le père de l'étudiant se rend sur place afin de déclarer la disparition de Stéphane au commissariat. On lui fait remarquer que ce signalement est prématuré. L'intéressé étant majeur, il est susceptible de réapparaître dans les heures qui suivent. La déclaration est cependant actée. Stéphane Camogne, 24 ans, un grand gaillard de près de 2 mètres, physique sportif, originaire de Maisons-Alfort, né en France, de parents camerounais, est officiellement recherché. Une photo le montre dans l'uniforme de son école, gants blancs et petites lunettes. Les recherches s'engagent pour retrouver la trace de Stéphane Camogne. Les hypothèses d'une disparition volontaire ou d'un suicide ne tiennent pas. L'étudiant a les pieds sur terre, une scolarité sans faille. Ancien élève des classes préparatoires du renommé lycée parisien Louis le Grand, retenu pour suivre une formation à l'université de Géorgie aux États-Unis, brillamment diplômé. Stéphane avait plein de projets d'avenir. Des témoins entendus décrivent une ambiance festive où l'alcool a coulé à flot. Stéphane s'est amusé comme tout le monde. On a discuté ensemble une bonne vingtaine de minutes de nos métiers respectifs. Il était heureux dans son job, indique au journal Le Parisien Benjamin Carlu, un de ses camarades de promotion. Un autre participant, Philippe Vaillant, raconte que vers 4 heures du matin, et alors que le gala allait s'achever, Stéphane ne se sentait pas bien. Il avait, comme tout le monde, beaucoup trop bu. On l'a raccompagné vers la bibliothèque où une salle de repos avait été aménagée. Il s'est allongé. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un l'a vu ressortir, mais sa voiture, une Golf bleue, est restée stationnée sur le parking de l'école. Mercredi 24 décembre 2008, 14 jours après la disparition, le corps de Stéphane Camogne est retrouvé dans l'une des dérivations de la Marne, avenue du Général Patton, non loin du campus de l'École des arts et métiers. Des plongeurs, de la gendarmerie, les pompiers qui sondaient ce bras d'eau ont retrouvé le malheureux qui flottait entre deux eaux. 5 jours plus tard, les premières constatations du légiste indiquent que le cadavre était sans doute là depuis le jour de la disparition. Une source judiciaire fait vite savoir qu'aucune trace de coup n'a été remarquée sur le corps.
À coup sûr,
c'est un accident, s'empresse-t-on de déclarer. Le père de Stéphane indique que son fils connaissait très bien les lieux. Si mon fils est tombé à l'eau, je suis convaincu qu'il n'y est pas allé de lui-même. Il n'avait aucune raison valable de se jeter dans ce canal, affirme Samuel Camogne. Ce dernier fait remarquer que le portable de Stéphane a fonctionné jusqu'à 8h25 dimanche matin. On a même cherché à consulter sa messagerie. Qu'a donc fait Stéphane entre 4h et 8h ce matin-là? Et c'est une question sans réponse pour Samuel Camogne, le papa, pour son épouse et même pour toute la famille de l'étudiant qui s'interroge. Est-ce que c'est un accident sur fond de fête alcoolisée? Pourquoi pas? Stéphane Camogne a quitté le gala. Il se peut qu'il se soit écroulé quelque part puis qu'il ait déambulé jusqu'au canal où il aurait malencontreusement chuté. On va voir que cette thèse qui est à ce moment retenue au sein de l'enquête, eh bien qu'elle ne tient pas, mais on va voir ça dans le chapitre suivant avec ces expertises qui vont tout changer et conduire à la piste criminelle. Bonjour Maître Didier Seban.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Stéphane Camogne et ça fait des années que vous cherchez à faire bouger ce dossier, finalement à le ressusciter en permanence. On va en parler d'ailleurs de ces difficultés qu'il y a à faire bouger cette enquête. Pourquoi tout de suite le père de Stéphane et la famille? Ils ne croient pas à l'accident. Alors, c'est la famille, évidemment, ils ont peut-être envie d'avoir une autre piste que celle de l'accident, mais là, il y a beaucoup de doutes.
Oui, c'est un grand gaillard, vous l'avez rappelé, c'est un garçon dans la force de l'âge, c'est un garçon qui aime la vie, qui n'a aucune raison, évidemment, de prendre des risques. Et puis, on s'interroge très vite, parce que la première thèse de l'autopsie, c'est qu'il serait tombé sur le rebord, puis tombé dans le canal, et qu'il serait... alors, on imagine, il fait... plus de 100 kilos, un garçon de cette... Ça rebondit pas, c'est pas un ballon.
Voilà, c'est un gabarit très lourd.
C'est un gabarit très lourd, c'est pas un ballon, il rebondit pas pour après se retrouver dans le canal. Donc il y a déjà quelque chose de très bizarre, il y a cette bizarreté du téléphone, normalement un téléphone évidemment dans l'eau, ça s'arrête de fonctionner. Il y a cette bizarreté qui fait que c'est quand même une route assez passante à Chalon, et que si on en croit l'heure d'arrêt du téléphone à 8h du matin, il y a beaucoup de passages, de gens qui vont au travail le long du canal. Il y a donc toute une série d'éléments, et puis les amis parlent de bagarres, de situations qui seraient mal passées. On y reviendra, mais on a aussi l'histoire de la voiture,
qui est
très troublante, puisque sa voiture est sur le parking, puis après le gardien dit qu'elle n'y est plus, qu'elle disparaît dans la nuit où Stéphane va mourir, et puis qu'elle revient le lendemain matin. Qui a conduit la voiture de Stéphane Camogne, si ça n'est pas lui, qui l'a sorti, rentré? Il y a beaucoup de doutes, il y a une histoire de bagarre avec les vigiles, il y a beaucoup d'éléments.
On va y venir effectivement à ces éléments qui sont un enchaînement d'ailleurs de questions, hein. Il y a pas d'autre terme. Bonjour Samuel Camogne.
Bonjour Monsieur Richard, et merci. Déjà, vous m'aviez déjà invité dans votre studio au sujet de la mort de mon fils. Je vous en remercie.
C'est nous, Monsieur Camogne, qui vous remercions de nous accorder quelques minutes. La liaison est pas très bonne, hein. On vous entend pas très bien, mais enfin, Monsieur Camogne, juste une petite question déjà. Qui est Stéphane, votre fils?
C'est quelqu'un qui était toujours prêt à aider les autres d'une manière ou d'une autre. Même ses camarades de promotion, prêt à leur donner un coup de main pour améliorer leur niveau en cette matière-là. Mmh. Fier de pouvoir réussir depuis l'école primaire.
Olivier Logal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Alors, vous êtes ancien gendarme. Et vous êtes aujourd'hui chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban, qui est avec nous dans cette heure du crime. Alors déjà, vous êtes un expert finalement, hein, vous avez été embauché comme un expert pour un petit peu suivre ces dossiers qui ont du mal à être résolus. Hein, c'est ça, je résume un petit peu votre mission.
C'est ça, j'ai un rôle de conseil, et l'idée c'est de répondre aux interrogations que peut se poser Didier Seban et ses collaborateurs sur les points points concernant la criminalistique, concernant la téléphonie, concernant des axes d'enquête qui n'auraient pas été exploités ou sous-exploités.
Alors, effectivement, et c'est un rôle, on n'a pas l'habitude en France d'avoir ce genre de conseil, mais c'est très bien parce que c'est très moderne. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais c'est presque une première en France, j'ai envie de dire, dans un cabinet d'avocats. Olivier Le Gall, en un mot, les premières heures, j'ai envie de dire, les premières constatations, elles sont très importantes dès lors que quelqu'un disparu, même si là on va retrouver le corps relativement rapidement.
Ah bah c'est crucial pour éviter le dépérissement des preuves, pour pouvoir entendre à chaud les premiers témoins, même s'il faut après parfois y revenir, mais les premières impressions, les premières auditions sont très importantes pour fixer ce qu'on appellera la scène de crime.
Alors il y a quelque chose d'important tout de suite qui apparaît, et Maître Seban y a fait allusion, c'est la téléphonie. Parce que le téléphone, on s'aperçoit que bah, il a fonctionné assez tard, quoi, hein, jusqu'à 8h20, à cette heure-là, peut-être l'intéressé était peut-être déjà mort.
Alors c'est la question qui m'a été posée, c'est de savoir si effectivement, par exemple, un téléphone du type de celui de Stéphane Cameuil, en l'occurrence c'était un iPhone, plongeait dans l'eau, pouvait continuer à émettre, par exemple. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de chercher. Moi, mon travail, c'est essentiellement de chercher en source ouverte, hein, de ce qu'on peut trouver comme information sur le sujet. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si un téléphone tel que celui de Stéphane Cameuil, plongé dans l'eau plusieurs heures, pouvait continuer à accrocher des relais ou pas.
Et la réponse, elle est incertaine. C'est-à-dire dans des cas, ça peut, d'autres cas, ça peut pas.
C'est exact. Hein,
c'est effectivement
exact.
Ce que disent en général les experts de ce genre de technologie. Maître Didier Seban, je reviens vers vous. Il y a cette première autopsie. Je l'ai évoquée très rapidement. Alors là, la première autopsie, elle est simple, hein. Circuler, il n'y a rien à voir, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a une vague blessure thoracique, mais à part ça...
On a vraiment l'impression qu'à Chalon, l'école, c'est le patrimoine de Chalon, cette école des arts et métiers, c'est la fierté de cette ville. C'est évidemment, il y a beaucoup d'étudiants, c'est ce qui fait vivre la ville, une ville qui a souffert aussi du départ des militaires, une ville... on ne veut pas croire qu'il y ait pu se passer c'est un crime. On ne veut pas croire tout de suite quand on rencontre le procureur, avant même on nous dit non, ça doit être un accident, c'est pas possible, ou un suicide. Même chose chez les enquêteurs, même chose chez le médecin légiste, et même chose à l'école. Finalement, tout le monde a envie que ça ne soit qu'un accident et pas que ça soit un meurtre.
Parce que c'est une mort qui gêne tout le monde, c'est ça ?
C'est une mort qui gêne tout le monde, ça se passe pendant la fête.
Mauvaise publicité.
Mauvaise publicité, c'est un des rares étudiants noirs de l'école des arts et métiers. On n'imagine pas, on veut pas imaginer, on veut pas admettre qu'il y a pu se passer quelque chose ce soir-là à la fête, et on fait même taire les étudiants, c'est-à-dire qu'on dit aux étudiants qu'ils ne peuvent venir témoigner qu'accompagnés par un dirigeant de l'école, qui vaut mieux qu'ils se taisent, qui ne participent pas aux manifestations organisées par la famille. Au fond, on veut empêcher tout scandale et que cette affaire tombe vite dans les limbes.
On veut mettre le couvert sur cette affaire, mais les parents et leurs avocats ne veulent pas en rester là. Une nouvelle autopsie va révéler un coup de théâtre.
Pas accepter que ton relation que ton papa pété donne, mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Vous savez, tout pas accepter que toutes ces autres vivent qu'elles finissent ensemble, hein? Mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Tout petit monde vise à son papa, ton papa privé, lise son papa, il a pleuré pour son papa. Parce tout ces monde mais ça y est papa. Dans les vents j'ai ton corps dis son papa. Ton café big man a cry water. Ton papa privé dis son papa. Parce tout ces monde mais ça y est papa. Ton écarrel et ton gueule t'auras éteint ton fond. Ton pas raisonnable, ton palais ton des personnes. Même ton profond mais ton pas l'écouter personne. Ton préféré les petits mon enfant bad condition. Mon père a minimisé ça ton vie femme. Ton choc a monté des sortes comme balle ping pong. Toutes ces autres vivent, j'ai plus qu'étonne. Tous ces autres vivent, j'ai plus ce qu'ils donnent. Cette paix à six palais, ça c'est des grands mondes, cette paix à six palais. Ces autres vivent, pas que j'ai roucolé. Si j'allais, baby girl, faut laisser y aller. Cette paix à six palais, au lieu de faire chantage, t'as paix à six palais. C'est mon aka cry, fada aka cry, et ça fucking sad, basse. Mon savé t'as pas accepté. Et ton relation que ton papa pitié donne. Mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Vous savez d'où pas accepter que toutes ces autres vivent qu'elles finissent ensemble. Mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Ton petit monde mise à son papa. Ton papa privé, lit son papa. Il qu'a pleuré pour son papa. Parce que tout ces monde mise à son papa. Ton l'évangé, ton corps, dit son papa. Ton café Big Man a cry water. Ton papa est privé, dit son papa. Parce tout le monde besoin yo papa. Malheureusement, à qu'on sa life. Malheureusement, à qu'on sa life. Il pas toujours qu'à finir qu'on font compte de fait. Mais là, si mon ami t'en faut pas fucking jouer là. Malheureusement, à qu'on sa life. Malheureusement, à qu'on sa life. Il pas toujours qu'à finir qu'on font compte de fait. Mais là, si mon ami t'en faut pas fucking jouer là. Mon savait tout pas accepter. Et ton relation que ton papa pitié donne. Mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Vous savez tout pas accepter. Que toutes ces autres vivent qu'elles finissent ensemble. Mais y'a pas une raison pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Ton petit monde mise à son papa. Ton papa est privé, dit son papa. Il qu'a pleuré pour son papa. Parce que tout le monde besoin yo papa. Ton l'évangé, ton corps dit son papa. Ton café Big Man a cry water. Ton papa est privé, dit son papa. Parce que tout le monde besoin yo papa.
Écoutez l'heure du crime sur RCI. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camogne. À l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé, promis à un bel avenir, disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Il n'est pas allé très loin, mais il va falloir bien du temps pour le retrouver. En 2013, soit 5 ans après la mort de Stéphane Camogne, un élève ingénieur sera tué dans une bagarre lors d'une même soirée de gala, mort sous les coups d'un jeune homme n'appartenant pas à l'école. La famille et l'avocat regrettent de trop rares témoignages malgré le grand nombre de personnes présentes au gala. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose ce soir-là et n'a jamais rien dit, sans doute pour ne pas s'attirer d'ennuis, estiment les proches de la victime. C'est essentiel pour nous que les Gadzars, le surnom des élèves ingénieurs des arts et métiers, que ces Gadzars parlent, car il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est ce que dit la famille, et ce que dit encore aujourd'hui la famille, parce que l'appel à témoins, il est permanent dans cette affaire. On a toujours effectivement envie de demander aux personnes qui savent, qui auraient vu quoi que ce soit, même un détail qui aurait pu leur échapper, de parler et de raconter ce qui a pu se passer. Maître Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Stéphane Camogne. Alors, il y a une piste très intéressante dans cette histoire, c'est la piste des vigiles. Parce que depuis le début, on parle de cette espèce d'altercation, de dispute entre Stéphane Camogne et les vigiles qui étaient là. Qu'est-ce qu'on en sait de cette histoire?
Ben, ses amis avaient quand même placé Stéphane dans la bibliothèque pour qu'il se repose, parce qu'il sentait qu'il n'était pas en bonne forme. Il avait sûrement trop bu à ce moment-là. Donc, il fallait le protéger. Ils avaient compris ça, puisqu'ils l'emmènent à la bibliothèque. Et puis, quelques instants après, quelques minutes, peut-être dizaines de minutes, on le voit sortir. Et visiblement, ça se passe mal. Quoi. Mmh. Il y a des mots qui sont échangés, peut-être des gestes, on n'en sait pas plus. Et on peut imaginer que si tel ou tel vigile a mal pris les réactions de Stéphane, il est un peu poursuivi un peu après, puisqu'il a dû traîner dans les alentours de l'école, ou qu'on l'ait empêché de re-rentrer, enfin qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. En plus, bon, moi je peux pas oublier que que Stéphane est noir et que on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'immigration, il n'y a pas beaucoup qu'il est un des rares étudiants noirs et que au fond il y a pu y avoir aussi une forme de racisme.
Voilà, vous n'excluez pas un tabassage en règle, enfin, parce que sur une action raciste, vous l'excluez pas.
On Je ne l'exclus absolument pas du tout. On voit bien qu'il y a deux mondes à Chalon. Il y a le monde de cette école, le monde de ces étudiants qui font la fête, ainsi de suite, et puis éventuellement des gens qui habitent à Chalon qui supportent pas toute cette agitation, toute cette situation. Donc, il a pu faire une mauvaise rencontre, peut-être mal répondre à quelqu'un qui passait par là,
oui, ou en vigile. Et puis, il y a toujours de l'alcool qui circule, enfin, etc. Les gens sont assez excités.
Voilà. Il n'était pas en très bonne forme, on peut penser, et la violence des coups qui ont été portés sur son dos et le fracas osseux que décrivent les experts, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a voulu lui régler son compte. Donc on peut imaginer effectivement soit une altercation avec les vigiles, et de ce point de vue-là, les vérifications ont été très modestes, très très modestes.
On les a pas beaucoup interrogés, ces vigiles.
Pas beaucoup, pas tous. Et puis une mauvaise rencontre comme celle qu'a connue cet étudiant 5 ans après. Donc, les hypothèses sont à travailler, elles doivent l'être. Et moi, je le redis, s'il y a des quatre-arts qui nous écoutent, s'il y a des étudiants des arts et métiers, s'il y a du personnel des arts et métiers de Chalon qui nous écoute et qu'ils ont quelque chose à dire, même s'ils ont déjà envoyé une lettre qui s'est perdue ou quelque chose, adressez-vous au juge d'instruction de Reims, écrivez-lui en lui disant « je suis témoin de quelque chose ». On peut encore donner des réponses à la famille de Stéphane.
Olivier Legal, vous travaillez avec Didier Seban, ancien gendarme. Un témoignage, même tardif, c'est toujours très intéressant. Il ne faut pas hésiter, si on a quelque chose à dire, à venir le dire.
Bien sûr. D'ailleurs, au cabinet, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que le cabinet est souvent sollicité par des personnes, soit par mail ou soit par écrit, voire même par téléphone, pour dire, voilà, sur différentes affaires, dénoncer telle ou telle chose, ou apporter simplement, donc effectivement, un témoignage. Donc, pour nous, c'est toujours intéressant. On voit si c'est pertinent ou pas.
Il faut trier, bien sûr.
Il faut trier, voilà. Donc ça fait partie de mon travail, en l'occurrence, et de voir si on fait suivre ou pas au juge chargé de l'enquête. Mais effectivement, même quelques années plus tard, et qui plus est, dans cette affaire, si j'ai bien compris, c'est une soirée de gala, on est sur plusieurs centaines de personnes.
Bien sûr.
J'imagine que la difficulté pour les enquêteurs à l'époque, ça a été de retrouver un maximum de témoins, et surtout qu'au départ on est sur une simple disparition. Et donc voilà, on met pas tous les éléments possibles, tout le personnel possible pour identifier ces témoins.
Le dossier Stéphane Camogne, ouvert il y a 14 ans, aurait pu très bien rejoindre le pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non résolues. Il reste pour le moment au sein du pôle criminel du tribunal de Reims. Après toutes ces années, la famille de l'élève ingénieur continue à faire le siège des enquêteurs, même si aucune information nouvelle n'a été enregistrée. Les parents et leur avocat souhaitent que de nouveaux actes et expertises soient menés. L'ancien gendarme Olivier Legal, qui a rejoint le cabinet de maître Didier Seban, a commencé à décortiquer le dossier de Chalon en Champagne, selon lui, ainsi qu'il expliquait au site d'information Les Jours. La police scientifique doit être à nouveau sollicitée sur les vêtements, les effets personnels de la victime. Le travail mériterait d'être refait, indiquait-il. On peut trouver là où on ne trouvait pas à l'époque, ou chercher là quand on n'a pas cherché. Samuel Camogne, le père de Stéphane, regrette l'absence d'informations en provenance des juges d'instruction successifs. « Je n'ai jamais réussi à avoir de rendez-vous avec le nouveau juge. Je ne suis informé de rien du tout », indiquait-il en 2020 au journal L'Union de Reims. Il déplorait notamment que la téléphonie n'ait pas été exploitée. Olivier Legal, ancien gendarme et chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban. J'ai cité vos propos que vous avez tenus sur le site d'information Les Jours. Effectivement, vous dites, après tous ces habits qui ont des marques de coups, Didier Seban nous l'expliquait bien, on voit bien que la personne a été frappée, ces habits, il faut à nouveau les réétudier, les réexaminer, parce que la technologie évolue et qu'on peut trouver peut-être autre chose, c'est ça ?
Alors, dans une affaire, ce serait trop facile de dire, voilà, on prend les scellés, on réanalyse tout. Il faut être pragmatique. Donc, une fois que effectivement, le dossier a été étudié par Didier et ses collaborateurs, effectivement, il y a une proposition qui est faite de dire, voilà, par exemple sur la veste, telles choses ont été faites, est-ce qu'elles ont été suffisamment faites? Oui, non. Certains habits n'ont pas été analysés, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Par exemple, je crois que sa chemise, si j'ai bien saisi, n'a pas été analysée, alors que si on pense qu'il y a eu une bagarre, il a pu être très bien saisi, par exemple, au niveau de la boutonnière.
Voilà, il peut y avoir des empreintes.
Il peut y avoir des empreintes, il peut y avoir de l'ADN, même si le corps a été retrouvé dans l'eau, et la preuve, puisque il semblerait qu'il y ait des traces ADN qui étaient retrouvées sur la veste, même si on a retrouvé le corps immergé. Donc c'est toujours possible. Et si à l'époque, peut-être, il fallait une certaine quantité de matière, aujourd'hui, avec une simple cellule, on arrive à mettre en évidence un profil ADN.
Et c'était, évidemment, vous prolongez ma question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles permettent effectivement d'avancer. Alors, c'est pas la panacée, on va pas tout retrouver grâce aux nouvelles technologies, mais on avance, on retrouve des choses qu'on ne trouvait pas à l'époque.
Bien sûr que ça avance. Alors, ça avance pas au jour le jour, c'est pas tous les jours une nouvelle technique, mais en tout cas, certainement que depuis les faits, il y a peut-être d'autres méthodes à mettre en place et qui permettraient effectivement, notamment sur les mélanges d'ADN, de pouvoir maintenant, on peut effectivement extraire ce mélange et déterminer un profil beaucoup plus précis.
Didier Seban, vous êtes l'avocat, vous, de la famille de Stéphane Camogne. Pourquoi il n'y a pas ces expertises? Parce que je suppose que vous n'arrêtez pas de les demander, les expertises.
Oui, on
auprès
n'arrête pas
de les demander. Le procureur, mais apparemment, il n'a pas l'air d'accord.
Bah, écoutez, les juges changent, ne restent pas en place. Il n'y a pas de continuité dans l'enquête, dans l'instruction. Il y a ce vice originel qui est qu'on a considéré que ça n'était pas un meurtre et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Le procureur m'écrivait encore, on n'est pas sûr. Alors que pour moi, c'est évident que ça en est. Quand j'ai demandé le transfert du dossier au pôle de Nanterre. Voilà, on a l'impression d'avoir plutôt des magistrats qui ne veulent rien faire, ne veulent pas faire, n'y croient pas, plutôt que des magistrats qui sont à l'initiative. Je peux me tromper, moi je demande de vérifier tel élément, telle chemise, tel point, je peux ne pas demander la bonne chose, il y a peut-être une meilleure idée, mais j'aimerais me confronter avec des magistrats qui ont envie de savoir la vérité, qui me disent, mais maître, je préfère faire ça que ça, ou je prends telle disposition, c'est eux les chefs d'enquête. Moi, je leur propose des choses à faire. Et en face, j'ai plutôt des magistrats qui me disent, ah ben, tout ce que vous demandez, on ne sait pas y répondre, c'est trop compliqué, c'est peut-être trop d'efforts. On a l'impression qu'on a perdu un peu, et c'est ce qu'on espère retrouver avec le pôle de Nanterre, cette envie de trouver cette conviction chevillée au corps qu'on doit résoudre une affaire et que c'est ça le métier de magistrat instructeur.
On peut l'espérer, effectivement. Et vous me tendez la perche, Maître Seban, parce que pourquoi ce dossier il n'est pas au pôle des cold cases? Alors, il ne faut pas penser que le pôle des cold cases, ça va résoudre toutes les affaires et qu'effectivement, c'est là où tout va se déclencher. Mais tout de même, il le mérite avec les années passées.
Bah, il le mérite très largement. On l'a demandé, on l'a lourdement demandé, mais on nous répond, vous savez, il faut l'accord de tout le monde dans ces affaires. Le juge d'instruction était d'accord, mais le procureur de Nantes, le procureur de Reims ne veut pas le transfert de ce dossier. J'attends qu'il mette les moyens, qu'il fasse des demandes au juge d'instruction, qu'il s'investisse dans l'enquête. S'il veut pas transférer le dossier, qu'il bosse. Voilà, c'est ce que j'attends.
Mais pourquoi il veut pas?
Parce qu'il m'explique qu'il y a encore un doute, alors que le dossier est maintenant en homicide, qu'il y a encore un doute. Toutes les bonnes raisons pour ne rien faire. Moi, j'attends de lui qu'il est le maître de l'action publique, qu'il agisse, qu'il donne les réponses à la famille. C'est ce que j'attends.
Eh bien, espérons qu'il écoute et qu'il vous réponde. Depuis 2009, chaque année au mois de janvier, les proches et les amis de Stéphane Camogne viennent se recueillir à Châlons-en-Champagne, sur les lieux où l'étudiant a perdu la vie. Le petit groupe se rend généralement sur les bords du canal, avenue du Général Patton, à l'endroit où le corps a été retrouvé. Ne pas savoir rend notre vie bien plus difficile. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé, savoir comment est parti notre fils, font savoir le père et la mère de Stéphane. Dès le début, les parents avaient compris que quelque chose d'anormal s'était produit. On essaie de vivre avec, en espérant que quelqu'un dira un jour la vérité. Confier Samuel Camogne. Et Samuel Camogne, le papa donc de Stéphane, il est avec nous dans l'heure du crime. Samuel Camogne, depuis 2008 désormais, en quelques mots, vous vous interrogez sur cette enquête qui, selon vous, a manqué, on va le dire comme ça, de pugnacité, vous dites, de curiosité, c'est ça?
On s'est rendu compte très vite Et l'avancement des choses n'ont fait que confirmer cela. Qui avait aucune volonté de la part de la justice ne dit la vérité. Dès le départ, pour moi, il n'y avait aucune volonté de faire cette enquête-là.
Olivier Le Gall, ancien gendarme, et vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet Seban. Ce genre d'affaires, là, ça fait quelques années déjà que ça dure. Hein. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est genre, il y a toujours, à un moment donné, un détail qui peut remonter, quelque chose qui va émerger.
Bien sûr, si les investigations sont réalisées telles que le préconise Didier Seban, il y a certainement matière à trouver quelque chose, évidemment. Mmh. Et même sur des affaires encore plus anciennes, il faut jamais désespérer. Et c'est pas un faux message d'espoir qu'on donne aux familles, mais il y a toujours, il faut jamais baisser les bras, il faut toujours chercher et jamais abandonner.
Mmh. Didier Seban, je reviens vers vous, avocat donc de la famille de Stéphane Camogne. On a entendu Samuel Camogne, il dit on n'a pas eu envie de la faire, cette enquête. Alors, c'est un papa qui parle, on comprend son émotion, il est peut-être un peu dans l'excès, mais ça recoupe un peu ce que vous dites, parce que finalement on a laissé beaucoup de choses en plan dans cette affaire Stéphane Camogne.
Oui, on a l'impression depuis le départ dans ce dossier qu'on est parti sur une hypothèse, qu'on ne voulait pas de scandale, qu'on ne voulait pas que tout ça puisse entacher l'école, et que tant le parquet de Chalon au départ, puisqu'avant d'être à Reims, le dossier était à Chalon, les enquêteurs locaux, finalement, n'ont pas voulu y croire. Et qu'ensuite, rattraper cette erreur, reconstruire quelque chose, reconstruire une vraie enquête, convaincre des juges qui souvent changent au bout d'un an, deux ans, et n'ont pas le temps de se consacrer à ce dossier, eh bien, toutes les avancées, toutes les expertises, toutes les contre-expertises, toutes les demandes d'actes, les vérifications sur les vigiles, c'est chaque fois la famille qu'il demande par notre intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chef d'enquête, on n'a pas une volonté, on n'a pas d'orientation d'enquête. Or, c'est quand même le métier de la justice de faire ça. Nous
c'est pas votre job, c'est ça.
Ah oui, je veux bien le faire si on ne le fait pas, et c'est ce que je fais toute la journée, mais c'est à la justice de le faire, et on attend que le procureur de Reims demande au juge de faire un certain nombre d'actes, que le juge prenne l'initiative de le faire, qui désigne un chef d'enquête, qui désigne peut-être un office central, que ça soit le CRVP ou Diane, pour enquêter sur cette affaire, puisque les policiers locaux n'ont pas démontré un grand engagement. Je veux dire, on attend qu'on change de braquet, et monsieur Camogne, madame Jeannette Twinka, monsieur Samuel Camogne, les parents, la mère, le père, eh bien ils attendent ça de la justice française, ils attendent les réponses, et je crois vraiment qu'on doit pouvoir rattraper le temps perdu, c'est ce qu'on souhaite en tout cas.
Olivier Le Gall, quelle est la clé finalement pour que cette affaire se débloque? Est-ce que ça passera selon vous, vous n'êtes pas médium, j'entends bien, mais selon vous, par les expertises techniques et scientifiques, ou bien en réécoutant certaines personnes qui n'ont peut-être pas été assez entendues à l'époque, ou bien des gens qui n'ont tout simplement pas été entendus? Vous disiez tout à l'heure, il y avait des centaines de personnes à ce gars-là. Je serais curieux de savoir combien ont été entendues.
Effectivement, ça je pourrais pas vous répondre sur cette question, j'ai pas la réponse sur le nombre de personnes qui ont été entendues, certainement beaucoup, mais peut-être ça passera par
pas
la
criminalité. Pas tant que ça, je vous dis Olivier, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
On a quelques témoignages au dossier, mais pas tant que ça.
Donc ça reste, il y aurait encore peut-être plein de personnes bien à entendre, sûr. C'est ça.
Alors, peut-être ça passera Olivier. Par la criminalistique, effectivement, ou peut-être ça passera par une délocalisation du service d'enquête, avec un service spécialisé qui va pouvoir reprendre, tel que donc Diane ou à l'OCRVP, et repartir de zéro, relire le dossier et voir toutes les incohérences.
Il faut relire le dossier, c'est ça. Il faut le reprendre, il faut le relire.
Il faut le relire. Il faut, je pense, faire une analyse criminelle fine de cette affaire, et justement identifier les témoins qui pourraient être pertinents et qui n'ont pas été entendus, et les entendre.
Maître Seban, dernière question pour vous, quelques mots. Ce dossier, il a failli être refermé 10 fois, non?
Oui,
vous êtes, chaque fois vous êtes battu.
Oui, c'est ça. Il était presque fermé, à peine ouvert. Oui. Donc il a fallu se battre, et on continuera, parce que les parents le méritent, et puis que la mort de Stéphane doit être expliquée, quoi qu'il arrive.
Merci beaucoup, Maître Didier Seban, Olivier Le Gall et Samuel Camogne, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Shaking, rage, losers.
Now which kind of life where I never see? I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know it's clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa just drive on now. Living life. See my fire burning bright. Within the inside me. Small way they might see. They never know I color. Do the move fight. Check and balance. Everything inside my mind daily. Trust me. You can't fool me. Energy don't get logo. More friendly and conscious. I'm allergic to suckles. So I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love. Stability on gonna. Everything a connection. I'm not ready for confusion. Things happen inside life. Draw that to make I live my life. Dreams come true if not fight. Fight the fight make you no go tire. Fire they go. Fire they go. You need to put your body and soul. Leave your worries.
RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camogne. À l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé, promis à un bel avenir, disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Il n'est pas allé très loin, mais il va falloir bien du temps pour le retrouver. 9 janvier 2009. Un mois après le décès suspect de Stéphane Camogne, le corps est transféré à l'Institut médico-légal de Paris. Les premières constatations ont finalement établi que l'étudiant n'est pas mort noyé et qu'il porte tout de même un traumatisme thoracique qui n'avait pas du tout été détecté. Très certainement le résultat d'une chute sur le sol dur d'un petit pont surplombant le canal, puis le basculement dans l'eau. C'est totalement improbable. Comment aurait-il pu tomber du pont, rebondir sur la rive puis tomber dans l'eau? Ce n'est pas un ballon de basket, s'étonne maître Didier Seban, l'avocat de la famille Camogne. La seconde autopsie, conduite par la professeure Dominique Lecomte, indique que le traumatisme au thorax n'est pas le résultat d'une chute. Il pourrait s'agir d'un impact provoqué par une voiture, un véhicule 4x4 équipé d'un pare-buffle. Le choc a eu lieu dans le dos, au-dessus des lombaires. Stéphane Camogne aurait été percuté alors qu'il marchait à cet endroit et a peut-être été projeté dans le canal. Il n'est pas exclu que l'accident puisse être volontaire. Le dossier change de nature. La chute accidentelle d'un jeune homme ayant trop bu devient une affaire criminelle. 20 janvier, le juge d'instruction requalifie les faits en homicide involontaire avec délit de fuite. Je n'ai jamais cru à l'hypothèse de la chute accidentelle de mon fils. Elle est impossible, tout comme le suicide. On a perdu beaucoup de temps dans cette enquête, déplore Samuel Camogne. La famille veut en savoir davantage. Des expertises complémentaires sont ordonnées sur les vêtements de la victime et son téléphone portable. 6 mois après la deuxième autopsie, le juge d'instruction est destinataire d'un rapport encore plus précis et accablant. Un chirurgien spécialisé en traumatologie, désigné pour examiner le corps, affirme que Stéphane Camogne a été agressé. On peut penser que la victime a été frappée avec une batte de baseball ou avec une barre à mine, indique le médecin. Le rapport fait état d'un geste si violent que le coup asséné dans le dos a provoqué une rupture immédiate de la moelle épinière. Les multiples lésions constatées ont provoqué un affaissement progressif du corps en raison d'une paraplégie immédiate, indique le chirurgien. Les coups portés à Stéphane ont bel et bien laissé des traces sur ses vêtements. quand je disais que mon fils ne pouvait pas s'être noyé, on se moquait de moi, indique Samuel Camogne. Son avocat regrette, lui, que le parquet général de Reims se soit opposé aux demandes d'expertise. Nous sommes désormais face à un homicide volontaire. Il y a urgence à ce que l'enquête criminelle soit menée, dit-il. Malgré les révélations spectaculaires des légistes et le fait que l'affaire soit confiée au pôle d'instruction criminelle de Reims, le dossier ne va pas beaucoup bouger, puis s'enliser dans une succession d'hypothèses divergentes. À l'été 2017, soit 9 ans après le décès de l'étudiant, 2 nouveaux rapports d'expertise ordonnés par le dernier juge d'instruction sont rendus. Le premier conclut que les blessures et la mort sont consécutives de la chute d'un pont. Le deuxième reprend le scénario d'une voiture qui aurait roulé sur le corps du jeune homme, lequel aurait été projeté dans l'eau. De quoi faire revenir les investigations à leur point de départ, des rapports aux avis contraires qui plongent la famille de la victime dans la plus grande perplexité. Et on le saurait à moins quand, comme le père de Stéphane, Samuel Camogne, on cherche par tous les moyens à obtenir la vérité. Nous en sommes donc là aux expertises des légistes. On va voir si par la suite l'enquête sur le terrain va donner des pistes supplémentaires. On en reste pour l'instant à ces rapports. Maître Didier Seban, vous défendez la famille de Stéphane Camogne. Si on n'avait pas demandé ces nouvelles autopsies, manifestement, il n'y avait pas de doute, ça restait un accident. On ne serait même pas là pour en parler aujourd'hui.
Oui, c'est ce que nous pensons souvent. D'ailleurs, des affaires de meurtre sont classées en accident. Et il suffit qu'on tombe sur le mauvais légiste au mauvais moment, que les examens n'aient pas lieu, ne soient pas approfondis, ou qu'il y ait une conviction du commissariat local qui emporte la conviction du légiste. Je crois que là, la volonté de la famille, le fait qu'elle ne croyait pas au scénario qu'on lui indiquait, nous a poussé à demander expertise contre expertise. Et moi, j'ai une certitude dans ce dossier, c'est qu'il a été tué, parce que on voit très bien sur ses vêtements, il portait une veste en velours, on voit très bien les traces des coups.
Ça, c'est flagrant, parce que vous avez accès au dossier, évidemment, vous avez vu les photos.
C'est flagrant, on voit la trace de la batte de baseball ou de la barre à mine sur les vêtements, et les experts d'ailleurs de l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale le confirmeront. Il y a des traces qui ont étaient tellement fortes, des coups qui sont tellement forts qu'ils ont laissé des traces sur le dos de la veste de Stéphane. De surcroît, sa chemise est déchirée, il y retrouvait la braguette ouverte. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui vont vers le scénario criminel, et on a l'impression que l'erreur de départ du dossier fait que, vous savez, c'est souvent le cas dans la justice, quand on commence mal un dossier,
c'est compliqué
de le rattraper, de convaincre les enquêteurs, de faire travailler tout le monde. On a l'impression que parce qu'on a raté quelque chose, eh bien, on ne réussira jamais. Et nous sommes convaincus qu'on doit savoir comment a été tué Stéphane.
Et l'erreur du départ, ce que vous disiez, pour compléter vos propos, Maître Seban, l'erreur du départ, c'est la mauvaise autopsie, c'est ça ?
C'est la mauvaise autopsie, et puis c'est cette conviction, finalement, il était alcoolisé, donc il a dû tomber dans le canal. Voilà, tout le monde est convaincu de ça. On n'a pas forcément envie de travailler. Personne n'a envie qu'il y ait eu un meurtre à Châlons, surtout dans cette école des arts et métiers. Et donc, tout le monde est parti de cette conviction, au fond.
Olivier Le Gall, vous êtes ancien gendarme, vous êtes chargé de mission pour les affaires non résolues au cabinet de Didier Seban. Vous travaillez donc évidemment ensemble. Quelle est la difficulté dans ce dossier sur les, j'ai envie de dire, les lieux du crime? On ne sait pas si c'est le lieu du crime, d'ailleurs, l'endroit où on a retrouver le corps. Hein. Et ça, c'est une difficulté parce qu'il y a eu peut-être un transport en voiture, puis il y a un environnement, Didier Seban parlait d'une route passante. C'est pas facile comme lieu à interroger.
Évidemment, et surtout que le corps est retrouvé 3 semaines après. Mmh. Donc entre le moment où il disparaît et ces 3 semaines, la zone en fait où on retrouve le corps de Stéphane a pu être modifiée. C'est-à-dire que si traces il y avait, elles ont pu disparaître par exemple. Si indices il y avait, ils ont pu également disparaître. Donc en fait, on va penser que la scène de crime se trouve à l'endroit où le corps de Stéphane a été retrouvé, mais en même temps, il est retrouvé dans l'eau. Donc, il a aussi très bien pu, avec le courant, se déplacer.
Et l'histoire de la voiture qu'évoquait Didier Seban, avec cette voiture qui aurait été déplacée, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance à cet endroit, dans cette école, pour surveiller s'il y a eu des allées, des venues, des sorties? On ne sait pas trop.
C'est pas un élément c'est pas une question sur laquelle on m'a demandé de me pencher. Donc, je ne sais pas s'il y avait des caméras ou
Didier
pas.
Didier Seban, il y avait, parce que je crois que
le papa avait en regretté qu'effectivement il n'y a pas de...
On n'a pas gardé les images. C'est sûr tout ça, on ne l'a pas demandé.
Alors,
on n'a pas gardé les images et on doit. Vous savez qu'il y a un délai de conservation court dans ce type de situation. On avait demandé les images de la banque, puisqu'il y a une banque à côté. On avait demandé, mais tout ça n'a pas été conservé parce que d'une part il y a eu un certain temps entre sa disparition et sa découverte, et puis qu'après on est parti sur une hypothèse d'un accident. Donc ça ne justifie pas.
Ça intéressait pas.
Mais ce qui est très troublant, cette voiture, on l'a retrouvée. Vous savez, un peu par hasard, elle avait disparu décellée. Et puis un jour, un garagiste a appelé le tribunal en disant « Mais moi, j'ai une voiture qui est là depuis presque 10 ans garée chez moi. Vous me devez des droits de fourrière. Faut me payer. » Et ce véhicule qui avait disparu des radars...
Qu'on avait oublié,
on l'a retrouvé, ce qui nous a donné un nouvel espoir, parce qu'il y a un gros sujet autour de ce véhicule. Le gardien de l'école dit « Ce véhicule, il n'était pas là le matin de la disparition de Stéphane, et il est revenu après. Donc ça veut dire que, lui il dit, le parking était vide, il n'y avait aucun véhicule, il est très affirmatif. Donc on se dit, ça veut dire que quelqu'un a peut-être ramené le véhicule de Stéphane, et donc il y a besoin de faire tous les examens ADN, toutes les vérifications sur ce véhicule. C'est ce que nous avons demandé, que nous attendons impatiemment. Peut-être que la résolution du crime passe par cette analyse du véhicule.
Malgré les années, parce que là aussi, la voiture, elle a peut-être été bougée, il y a peut-être des gens qui sont rentrés, on ne sait pas. Mais c'est toujours un peu complexe. Olivier Legal, encore une question. Et là, je fais appel à... Vous avez été un gendarme, donc vous connaissez évidemment bien le déroulé des enquêtes. Lorsqu'il y a plusieurs experts comme ça, contradictoires, je parle des autopsies, l'une dit c'est un accident, l'autre c'est probablement un meurtre, etc. C'est déstabilisant, ça, non, pour les enquêteurs?
Bah, il faut du coup se remettre en question. Il faut savoir quelle piste du coup il faut travailler.
Ben oui.
Là, ça ouvre plusieurs pistes, hein, de l'accident jusqu'au.
Et comment vous faites le choix ? C'est votre conviction finalement ?
Déjà, c'est le juge d'instruction, hein,
ouais,
qui dirige l'enquête et qui va vous dire sur quel axe travailler. Mais il faut surtout rien écarter. C'est-à-dire que voilà, on ébauche, on émet des hypothèses et on travaille chaque hypothèse dans ce dossier-là. Donc, l'hypothèse de l'accident a dû être travaillée et
bien
forcément, qui plus est, l'hypothèse du meurtre également.
La famille de l'étudiant va devoir se résoudre à attendre une vérité qui ne se dessine pas et où les témoins ne se bousculent pas.
Circuler, il n'y a rien à voir, mais il y a quand même un gamin qui a perdu la vie dans l'histoire. Quelle que soit la façon dont il a perdu la vie, ça reste en lien avec l'école, ça reste en lien avec cette soirée, ça reste en lien avec le fait qu'il soit à Chalon à ce moment-là. On a l'impression que cette école se referme. C'est l'omerta, on ne touche pas au Gaza.
Les enquêteurs ont interrogé plusieurs camarades de Stéphane Camogne, présents à la soirée organisée à l'École nationale supérieure des arts et métiers, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2008. Un témoignage évoque le comportement de l'étudiant qui, après s'être reposé à la bibliothèque, se serait disputé avec les vigiles vers 4h du matin. Deux de ces hommes auraient fini par l'empoigner et le conduire hors de l'établissement. Ce témoin ne fait pas état de violence manifeste ou de coups, reste que le père de Stéphane, Samuel Camogne, n'a cessé de s'interroger sur cet épisode qui ressemble à une altercation. On l'a vu se disputer et se faire sortir manu militari, indique le père. Selon lui, les vérifications n'auraient pas été suffisamment poussées. La société de surveillance employée pour la soirée de gala n'avait, semble-t-il, pas très bonne réputation. Elle avait d'ailleurs cessé toute activité dans les semaines suivant le drame. Une autre piste pourrait être celle d'un différend surgi entre l'étudiant et un individu n'appartenant pas à l'école, mais qui aurait pu se glisser dans la fête, une habitude lors de ces soirées de gala, où il est bien difficile de filtrer les entrées et les sorties. En 2013, soit 5 ans après la mort de Stéphane Camogne, un élève ingénieur sera tué dans une bagarre lors d'une même soirée de gala, mort sous les coups d'un jeune homme n'appartenant pas à l'école, la famille. Et l'avocat regrette de trop rares témoignages malgré le grand nombre de personnes présentes au gala. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose ce soir-là et n'a jamais rien dit, sans doute pour ne pas s'attirer d'ennui, estiment les proches de la victime. C'est essentiel pour nous que les Gazars, le surnom des élèves ingénieurs des arts et métiers, que ces Gazars parlent, car il n'est jamais trop tard.
Yo sé. Je t'aime.